hors champ. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Renzo Piano. Renzo Piano, vous êtes architecte, je ne sais pas si vous aimez ce terme, on reviendra sur la définition que vous en donnez. En tout cas, on connaît vos bâtiments depuis longtemps. En France, évidemment, c'est le Centre Pompidou, mais il y en a d'autres, comme notamment un couvent. Il y a évidemment cette immense tour magnifique à Londres qui illumine un quartier autrefois déshérité, The Shard. Il y a le Centre Jean-Marie Djibaou, très loin, mais très beau. Il y a la fondation Ménil à Houston. Il y a beaucoup de lieux pour abriter de la peinture, de la beauté. Mais il y a aussi des hôpitaux. Il y a aussi des endroits qui sont des friches industrielles et qui, grâce à votre art, sont devenus des lieux de vie. Quelle définition, justement, donnez-vous de ce mot d'architecte aujourd'hui ? Est-ce que constructeur-architecte, ça vous convient, puisque votre père était aussi constructeur ?
Oui, oui, je crois. C'est celui que j'adore. Hein. J'ai été bâtisseur, oui. Et franchement, c'est pas ça, puisque l'architecte, c'est plus qu'un bâtisseur. C'est un humaniste, c'est un bâtisseur poète, sinon, vous savez, bâtir, ça suffit pas. Et un bâtiment est depuis toujours, même depuis la première maison, le premier abri, le plus simple, le plus humble, ça toujours été, pas seulement un bâti, mais c'était aussi un symbole, une expression de l'identité des gens qui habitent. Et l'architecture, hein, c'est une des arts de raconter des histoires. Enfin, il y en a d'autres, plus rapides, plus faciles, mais au fond, l'architecture aussi raconte des histoires célèbres, des citations représentent des citations. Alors, c'est pour ça que, au fond, on commence comme bâtisseur, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et moi, j'ai commencé comme ça. J'étais le fils d'un petit constructeur, qui était le frère d'un petit constructeur, ils étaient les deux le fils d'un petit constructeur. Et voilà. Alors, quand vous êtes petit, je veux dire 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et vous grandissez dans un chantier, je vous assure que ça vous donne quelque chose qui reste dans la peau. C'est ce sort de plaisir de voir les choses se transformer. Vous avez de la matière brute, seulement ça vient un bâti, un poteau, un mur. À cet âge-là, on s'occupe pas d'autre chose. On s'occupe du miracle du bâtir, du construire. Et ça vous reste. Et comme il faut bien commencer quelque part, moi j'ai commencé par ça. Ça m'a resté dans la peau, bâtir, l'art de bâtir. Mais après, évidemment, comme on n'est pas fou, on rajoute d'autres choses. On apprend que l'architecture, c'est là, c'est une art. C'est une art de frontière, dans quelque façon. C'est une art dans laquelle il faut comprendre les gens, il faut écouter les gens, pas nécessairement obéir aux gens, mais comprendre. Il faut être des humanistes, il faut être des climatologues, il faut être des géographes, il faut être des topographes, il faut être tout ça. Et quelque part, on apprend à un certain âge qu'il faut aussi être, c'est un mot difficile à prononcer, mais il faut être un petit peu poète. Puisque si on ne met pas la poésie, comme d'ailleurs dans d'autres choses de la vie, hein, on ne fait pas du journalisme sans une certaine poésie. On ne fait pas autre chose sans une certaine poésie. Eh bien, si on ne met pas la poésie, alors là, il y a quelque chose qui manque. Et la poésie, c'est un parent proche de la beauté, qui est un autre mot difficile à prononcer. Mais c'est des choses qui sont nécessaires dans l'architecture. Mais au fond, l'architecture, je dirais, c'est l'art de construire des abris pour les gens.
Alors justement, quand vous étiez enfant et que vous viviez à Gênes et que vous regardiez le port, le bleu du ciel et ces mouvements de bateaux, ça ne vient pas quand même à tous les petits-enfants d'imaginer qu'un jour, ils vont construire un abri et s'emparer de l'espace. Donc, comment c'est venu cette idée et quelle était votre notion d'espace? À partir de quand avez-vous imaginé que dans l'espace, vous alliez pouvoir imaginer un toit, des murs? Oui. Et est-ce que c'était pour abriter des gens, déjà?
Mais cette idée d'abriter les gens, ça vient après. Puisque après on grandit, on dit bon, alors je vais être constructeur, je vais être ingénieur, finalement je vais être architecte. Et c'est quand vous avez une vingtaine d'années que vous commencez à comprendre ça. En plus, il y a la société. Quand vous avez cet âge, c'est la rébellion qui vous guide. C'est le plaisir de changer le monde, les choses. Alors, il y a quelque chose qui se rajoute. Mais tout ça se rajoute sur quelque chose qui existe déjà et qui a la mémoire profonde. Quelqu'un avait écrit que un enfant à 8 ans, 10 ans, il a déjà tout appris. Et il a déjà tout mis en registration. Il a tout enregistré. Et qu'on passe la vie à répéter après. On a déjà enregistré et la vie est passée à creuser dans cette carrière de mémoire. Alors là, bien sûr, sur ce thème, il faut faire attention, parce que c'est typique. On peut construire des châteaux de rhétorique sur ce thème-là, de la mémoire, des racines, ça devient ridicule. Et tellement que je crois qu'il faut même pas penser à ça. Ça revient tout seul. Quand vous avez 5 ans, 60 ans, alors ça revient. Avant, les racines existent, mais il ne faut pas penser à ça. C'est comme si on regardait en arrière, il ne faut pas penser à ça. Mais il existe, il y a des choses très profondes. Et c'est dangereux seulement qu'on en fasse trop d'histoires, que ça devienne trop des histoires rhétoriques. Mais ça existe, et pour moi, je crois que les racines plus profondes sont celles de Gênes. Gênes, c'est une ville de mer, dans laquelle la mer ne sont pas les plages. C'est la mer active du port. Et je vous assure, surtout dans les années 50, les ports étaient des lieux merveilleux. Les paquebots qui se déplacent, c'est comme une ville qui n'est jamais la même. Et vous voyez tout répété deux fois, puisque vous voyez l'objet et le reflet dans l'eau. L'eau rend les choses belles, inévitablement. Quelque chose de magique. Et en plus, il y a une sensation qui vous reste dans la peau. Tout ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas quand on est jeune. On l'apprend quand on est plus âgé. Il y a l'idée que dans un port, tout vole. Tout vole. Rien ne touche le sol. Les paquebots ne touchent pas le sol. Ils volent sur l'eau, mais ils ne touchent pas le sol. Tellement qu'ils peuvent se déplacer. À 10 heures du matin, les bâtiments forme une ville imaginaire qui est faite comme ça. L'après-midi, vous revenez, la ville est disparue. Un paquebot est parti, l'autre bâtiment est revenu. Il y a tout ça, c'est le mouvement et c'est la légèreté des choses. Je sais que les bateaux sont lourds, mais ils sont légers vis-à-vis de l'eau, ils se déplacent. Et après, il y a les charges, il y a les grues. Il y a tout un imaginaire que j'ai appris depuis que j'ai un certain âge, quoi. Pas avant. Il y a tout l'imaginaire qui revient tout le temps et qui vous donne des envies. Vous voyez, je pense une chose, c'est que les racines, ça dépend. Mais si vous vivez votre enfance, votre adolescence d'une façon forte, plein de désirs, plein de rêves, et si pour quelqu'un qui a grandi sur la mer, si on regarde la mer chaque jour, en rêvant, qu'est-ce qu'il y aura au-delà de la mer? Si on regarde la mer avec ses parfums, avec ses éclats de lumière, ses vibrations, ses sons, les voix de la mer. En plus, la Méditerranée, c'est une mer tout à fait spéciale. C'est même pas une mer. C'est une sorte de consommé de culture, la Méditerranée. C'est une machine à enregistrer la mer. La Méditerranée. Bon, et si vous passez l'enfance à regarder cette mer avec profondeur, eh bien, cette mer qui est tellement locale, elle devient votre universel. Ça devient l'universel qui vous accompagne toute la vie. Et du coup, voilà, là, c'est pas du tout rhétorique. C'est tout simplement votre essence. Et que vous fassiez n'importe quoi. Vous faites l'homme de science, vous faites de la recherche, vous faites de l'art, vous écrivez, peu importe. ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Ça donne votre identité, votre originalité, je pourrais même dire. Et voilà, tout ça, évidemment, ça existe en moi comme dans d'autres personnes. Mais en moi, ça s'est mélangé. Le port, la mer, la Méditerranée, mon père, le métier de l'architecte, du bâtisseur plutôt, et tout ça, ça se mélange et ça donne une sorte de drôle de mixture qui fait que vous grandissez dans ce, et après vous rajoutez. Mais l'idée que construire, c'est quelque chose de génial. Construire, et c'est comme se battre contre la force de gravité. Et voilà. Et ça vous suit toute la vie.
Alors, construire, c'est se battre contre le centre de gravité. Le bâtisseur, qui était votre père, vous a sans doute donné quelques principes ou quelques désirs, Renzo Piano, parce que quand on voit la très belle exposition que vous consacre l'Institut français d'architecture, on s'aperçoit qu'à travers le monde, quelle que soit l'hétérogénéité de vos projets, que ça soit des musées, que ça soit des hôpitaux, que ça soit des centres culturels ou sociaux, eh bien, il y a décollement du sol. C'est aérien, c'est une des caractéristiques de votre architecture. Sans parler de l'Afrique, là, parce qu'en ce moment, vous êtes en train de construire un hôpital pédiatrique en Afrique, sur un sol comme ça, très gras et très rouge. Et là aussi, vous essayez d'alléger le sol. Qu'est-ce qu'un sol pour vous ?
Je crois que l'idée de voler, c'est une idée légèrement folle. Justement, puisque c'est comme si on se battait contre la force de gravité, qui est la plus têtue parmi les lois de la nature, évidemment. Mais il y a quelque chose d'intéressant du point de vue de l'usage d'un bâtiment et de la ville en général. C'est qu'un bâtiment qui ne touche pas le sol, enfin, bien sûr qu'il touche le sol, mais qui laisse passer la vie urbaine du rez-de-chaussée généreusement au-dessus, c'est un bâtiment qui est généré avec la ville, qui ne prend pas possession égoïste du terrain, qui laisse l'espace à la ville. Je pense que ça c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps. Et quand, ou l'enseignement de mon père, je pense que c'est pas tellement ça, puisque finalement, lui faisait des choses simples et lourdes. Et vous savez bien que la première façon de retrouver soi-même, c'est de faire l'opposé de ce que fait votre père. Et bien sûr, tout ça, c'est un petit peu bête, et c'est typiquement adolescent, mais c'est un petit peu vrai. Mon père faisait des bâtiments simples. C'est pas à ce niveau-là qu'il m'a appris des choses. C'est plutôt à un autre niveau, très simple. C'est qu'il m'a toujours dit, pour faire les choses bien, il faut lui donner le nombre juste d'heures. Oui, il faut donner le nombre juste d'heures. Il faut pas faire trop vite. Il faut être sérieux. S'il faut cuire du pain, il faut savoir cuire du pain. Il faut savoir exactement comment on fait. Et si on construit, et si on écrit un livre, il faut le faire sérieusement. Et si on construit un bâtiment, il faut le faire correctement. Et si on construit un escalier, il faut à chaque marche, il faut donner le nombre juste d'heures. C'est quelque chose de très banal, mais qui compte beaucoup. Parce que ça vous suit. Et c'est aussi la raison pour laquelle, comme je suis devenu architecte plutôt que bâtisseur, hein, plutôt que constructeur, mon agence, enfin je dirais plutôt notre agence, puisque c'est une agence que je partage avec des partenaires, mais il s'appelle Building Workshop. Et Building Workshop, puisque c'est un lieu dans lequel le construire, ça reste quand même un élément formidable. Ça reste quand même le plaisir numéro un. Bien sûr, encore une fois, ça ne suffit pas de construire, c'est évident. C'est plus que ça, mais il faut quand même savoir construire. Puisque un bon pianiste qui ne sait pas jouer le piano, évidemment, il ne serait pas un bon pianiste. Et il y a toujours un côté technique dans toute art. Et même un bon écrivain, il sait chercher les arguments, mais après, il sait écrire. Et il y a la technique, comme disaient les Grecs, mais elle n'est pas séparée de l'art. Ça fait partie de l'art, ça fait partie de l'art et ça se mélange tout le temps. Eh bien voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle Billy Workshop et c'est pour ça que cet enseignement qui vient de très loin, donner le juste nombre d'heures à quelque chose qu'on fait correctement, c'est quand même un enseignement très important.
Et prendre le moins d'espace possible, c'est oui. Une question aussi qui se pose à travers l'art architectural que vous avez développé, Renzo Piano, parce que quand on prend le Centre Pompidou, vous avez obtenu ce concours, à la grande surprise de tout le monde, parce que vous étiez un inconnu. Il y avait dans le jury les plus grands architectes, ils vous ont distingué, je crois qu'il y avait plus de 500 ou 700 propositions pour ce futur Centre Pompidou. Et vous, vous avez gagné parce que, justement, vous n'empiétez pas, dans votre proposition, sur la totalité de l'espace qui était dégagé pour ce futur Centre Pompidou.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Mais ça, c'est un grand principe aujourd'hui encore. Hein. Il faut pas.
Donc prendre le moins de place et d'espace possible.
Il faut faire un bon usage de la place dans les villes. Sinon, la solution, c'est très facile. On agrandit les villes. Et on fait des banlieues, on fait des périphéries gigantesques qui sont impossibles de tout point de vue. Alors ça a toujours été vrai. Et surtout c'était vrai à l'époque, puisque un plateau comme le plateau Beaubourg, c'était bien un plateau. Il avait une certaine taille, il était parfaitement placé dans le centre de la ville, mais il fallait quand même laisser de l'espace vide, une place, la piazza comme on l'a appelé. Et avec Richard Rogers, on était deux gamins à l'époque, on était plutôt mal élevés même, puisque on avait dans la tête la rébellion. On avait cette rébellion. Et on a fait le projet, mais on a dit tout de suite, il faut qu'il y ait un espace public. Il faut une place. Puisque d'abord, un lieu culturel, c'est un lieu dans lequel les gens se retrouvent. Ils partagent des valeurs urbaines d'abord. C'est un lieu de rencontre. Et bien sûr, un lieu de culture, c'est plus que ça. C'est un lieu de beauté. Et quand je dis beauté, j'ai pris la bonne habitude d'expliquer toujours, encore une fois, qu'évidemment, beau, ça ne veut pas dire seulement beau. Dans beaucoup de cultures, notamment dans toutes les cultures africaines, bien sûr, dans la langue grecque, on le sait bien, beau n'est jamais disjoint de bon. Le beau, la beauté, qui est aussi la qualité des choses, c'est ça. C'est quand vous avez un musée, quand vous avez un lieu dans lequel vous faites du cinéma, dans lequel vous fabriquez de la musique, dans lequel vous pouvez lire et vous asseoir, même sur le sol pour lire des livres. Quand vous avez tout ça qui se mélange, vous avez un lieu dans lequel la culture, au lieu d'être la grande culture, c'était bien. Bien ça, le but de Beaubourg, c'était de faire un bâtiment qui soit pas intimidant, qui soit au contraire ouvert, généreusement ouvert, et qui donne le sens de la curiosité, qui est d'ailleurs le début d'une attitude consciente, culturellement consciente. Eh bien, quand vous mettez ensemble toutes ces fonctions-là, qui sont des fonctions qui mélangent un petit peu la curiosité humaine, savoir, et la beauté de l'art, et la beauté et la magie de la musique. Quand vous faites des lieux comme ça, vous faites des choses qui sont évidemment le sel et le poivre de la ville. Sont les lieux dans lesquels la ville se réalise en tant que lieu de civilisation. Et città et civiltà, en italien, c'est le même mot. C'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que de faire un bâtiment comme ça... Vous savez, on était jeunes, mais on n'était pas complètement fous à l'époque. Et on avait compris ça. Il fallait abattre un mur de méfiance un petit peu. Et c'était d'ailleurs seulement 3 ans après mai 68. Il ne faut pas oublier ça non plus. Hein. Le concours, c'était en 71. Eh bien, il fallait abattre ce mur. Il fallait construire cette notion de transparence et d'accessibilité et de curiosité. Mais surtout, c'était génial dans l'ensemble des différentes fonctions artistiques rajouter une fonction qui était strictement urbaine, la place. Et finalement, c'est pour ça qu'on était accusé un petit peu d'avoir trahi l'esprit de l'art, puisque finalement, c'était trop populaire. Ceci étant dit, on était accusé un petit peu de tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que c'était quand même une très grande idée, et c'était très important de le faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris l'ensemble de l'espace. Puisqu'il faut, dans les villes, il faut avoir des vides. Et les places sont les lieux iconiques d'une ville. C'est le lieu dans lequel les gens se retrouvent et les espérances se mélangent. Même la peur s'évanouit dans un certain sens, puisqu'on se sent citoyen, on se sent tous ensemble et on se sent jouir de la même chose. Vous savez, ça va loin, cette discussion. C'est sur le grand thème de la beauté. De la beauté qui est, j'en suis sûr, qui est une des choses qui peuvent sauver le monde. Une personne à la fois, naturellement. C'est une personne à la fois. Mais elle peut sauver le monde. Puisque c'est quelque chose qui n'a rien de romantique, la beauté. La beauté, c'est une sensation profonde. La beauté, quand pour beauté, j'entends aussi comprendre. Comprendre, étudier, découvrir. Ça, c'est une beauté profonde. Et c'est un plaisir aussi. C'est un grand plaisir. Et je crois que finalement, de mélanger systématiquement les bâtiments publics avec des espaces publics extérieurs qu'on tâche de garder. Et comment est-ce que vous le faites? Ou bien vous faites les gens un petit peu plus petits, et quelquefois malheureusement plus haut, mais c'est pas très grave quelquefois, ou sinon vous faites voler le bâtiment. Vous faites voler le bâtiment et du coup l'espace au-dessus du bâtiment, il n'est pas privé, mais il est presque public. Enfin, il devient le lieu dans lequel les gens se rencontrent et après ils montent dans le bâtiment.
Vous parlez de la beauté du monde, Renzo Piano, mais on s'aperçoit que depuis plusieurs décennies, les mégapoles augmentent, le désordre des villes ne cesse de s'accroître, les banlieues qui sont sédimentées par des couches de misère ne cessent de créer ce qu'on appelle des jungles. Vous vous rendez compte, on appelle des jungles. Et on n'a pas honte de prononcer ce mot-là, des jungles, des endroits où des personnes, on peut pas dire vivent, on peut pas dire ça, on peut pas dire qu'ils vivent. On les traite comme des sous-hommes. Alors vous qui êtes architecte depuis très longtemps et qui avez eu comme vocation cette architecture pour finalement abriter les hommes, que pensez-vous de ce devenir du monde?
Je pense que les périphéries des villes, les banlieues, comme on dit à Paris, mais c'est pas toujours le même mot, c'est les périphéries, les abords des villes, c'est la ville du futur. Je pense à ça, je suis pas un théoricien, et je sais que les changements dans les villes ont besoin de temps. Il faut du temps. Et je m'occupe de périphéries des villes depuis toujours, franchement, depuis toujours. Et parmi les projets qu'on fait à l'agence, il y en a beaucoup, peut-être la majorité, qui sont des projets dans les périphéries des villes. Et eh bien, je suis même au hasard, comme ça, sénateur en Italie.
Vous êtes sénateur à vie même.
Mais oui, puisque
on vous envie en France, parce que ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Il y a des sénateurs qui aimeraient bien être sénateur à vie.
C'est dans la constitution italienne. Eh bien. J'ai accepté de faire ça puisque justement je m'occupe depuis 3 ans désormais des périphéries. Des périphéries. Et je trouve que vraiment le grand thème du futur, quand on parle toujours des villes du futur, mais la ville du futur, on l'a, c'est la périphérie. La plus grande partie de l'énergie des gens d'abord, 80-90% des gens dans une ville vivent en périphérie. Et l'énergie vitale est là, dans le bien et dans le mal, bien sûr, dans le mal aussi, mais dans le bien aussi. Les périphéries sont des usines à désir. C'est sûr. Les centres de ville sont magnifiques. J'habite le centre de Paris, bien sûr, je l'adore. On les a sauvés dans les années 60. Il ne faut pas oublier que dans les années 50-60, les centres de ville, les centres historiques n'étaient pas aussi protégés comme ils le sont aujourd'hui. Il y a eu une bataille qui a duré 20 ans, 30 ans, qui était gagnée, même trop. Tellement qu'aujourd'hui, ces centres deviennent malheureusement un petit peu des centres commerciaux. On vend que des chiffons et partout, et c'est devenu quelque chose d'assez triste. Mais quand même, on les a sauvés, c'est sûr. La mémoire est sauvée. Eh bien,
Oui, mais les habitants s'en vont, les villes deviennent de plus en plus des patrimoines, et il n'y a que les gens riches qui puissent habiter au centre des villes.
Et c'est plutôt vide. Et je vous assure que la grande humanité est dans les périphéries. C'est pas seulement la majorité des habitants d'une ville, mais même à Paris, mais même dans toutes les villes que je connaisse, 80-90% des gens habitent hors du centre. Et c'est bien là qu'ils se trouvent, dans le bien, dans le mal, les désirs plus fort. Eh bien, il faut pas se tromper dans ces périphéries fameuses. Mais c'est une erreur de dire qu'ils sont toujours abandonnés, tristes, désolés et tout ça. C'est pas vrai du tout. Il y a même une beauté dans les périphéries cachées qu'il faut aller chercher. Les périphéries sont des lieux qui sont construits, qui ont une beauté malgré ils ne sont pas construits pour cette beauté, c'est sûr. Mais il y a une certaine beauté, la beauté dont on parlait tout à l'heure, naturellement, une beauté qui est faite d'espace, quelquefois de lumière, mais aussi de gens. Eh bien, venons à la pratique. C'est évident que c'est une longue histoire. Construire les périphéries, c'est comme construire les villes, c'est comme construire la paix. C'est un job jour par jour, lent. Et systématique, mais il faut le faire. S'il a fallu 30 ans pour défendre et sauver les centres historiques, il faudra 60 ans pour défendre et construire les périphéries. Et comment est-ce qu'on fait ça? Mais c'est évident, on sait parfaitement. Je parlais de ce programme que j'ai fait en Italie au Sénat, puisque je l'ai fait avec des jeunes. Chaque année, on cherche une périphérie spécifique et on travaille sur cette périphérie. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est compliqué, c'est assez souvent humaniste, puisqu'il y a des perles. Il y a des perles dans les périphéries. Je sais qu'il y a les drames, mais il y a aussi des perles. Sauf qu'elles sont par terre. Il faut les prendre, les soulever, les nettoyer et les voir à contre-jour. Et les observer. Il y a des perles. Et les perles sont des gens, sont des groupes de volontaires. Il y a partout des désirs qui se construisent. Alors, comme disait un grand écrivain que j'ai toujours aimé beaucoup, Italo Calvino, il a écrit un très beau petit livre qui s'appelle « Les cittas invisibles », « Les villes invisibles ». Eh bien, à la fin du livre, il dit « Mais dans toute ville, même la plus désespérée, il y a toujours un coin qui est bon, qui est beau et bon. Eh bien, c'est celui-là qu'il faut aller chercher. C'est celui-là qu'il faut donner de la force. » Et vous voyez que ça va aller. Et je pense que, vous savez, pour un architecte, de ne pas croire en ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'il change métier. Il faut croire en ça. Bien sûr, je suis horrifié par la façon dans laquelle on traite et on nomme même les périphéries. Toujours avec beaucoup de détachement, comme ça, c'est toujours désolé, c'est toujours triste, c'est toujours dangereux, tout ça. Bien sûr que c'est ça. Mais c'est pas seulement ça. Quand vous avez 80%, 90% des gens d'une ville qui habitent la périphérie, je vous assure, vous avez une quantité énorme, énorme, de gens qui sont très bien et qui ont seulement désir de transformer cette périphérie qui sont d'habitude des dormoirs, c'est des endroits dans lesquels on va dormir, et monofonctionnels, les transformer en ville. Et alors, une des premières choses à faire, c'est évidemment d'amener, de féconder, de fertiliser les périphéries avec des équipements publics. Et vous savez, nous-mêmes, dans notre agence ici à Paris, on construit les grands tribunaux, les palais de justice, on les construit...
Le futur palais de justice de Paris, donc vous avez réussi à convaincre... la haute magistrature et tous les organismes d'État à déplacer hors du centre de Paris le futur donc palais de justice.
C'est plutôt le contraire, dans le sens que
il est en train de se construire. Il sera terminé dans quoi, deux ans.
C'est fait naturellement. C'était plutôt le contraire puisque c'est pas sûrement pas la décision de l'architecte, mais ça nous a trouvé parfaitement heureux de construire le palais de justice, Porte de Clichy, et sur les abords nord de Paris, pas loin de Saint-Denis. Enfin, c'est pas la banlieue, mais c'est quand même le bord nord de.
Mais quand on regarde ce projet là que vous êtes en train de faire, Renzo Piano. On voit que là aussi, l'idée de la beauté prédomine parce que vous avez fait un bâtiment qui n'est pas vraiment une tour et qui comporte des sortes d'étages et à chaque fois, à chaque étage, des terrasses.
Oui, Oui, et ça, c'était aussi un côté inévitable.
Un palais de justice avec des terrasses, c'est pas évident.
Puisque pendant des siècles, le palais de justice était dans un lieu admirable et beau, historique, dans l'île, dans la cité. Et or, vous ne pouvez pas amener le nouveau palais de justice dans un lieu dans lequel il manque une certaine beauté. La dignité, la beauté, la luminosité, ce nouveau aspect. Il y a là aussi un parvis, naturellement. On n'occupe pas entièrement. Mais je parlais de ça pour dire qu'évidemment, d'amener le palais de justice aux abords de Paris, ça complique un petit peu les choses. Quelqu'un n'était pas d'accord. Mais en réalité, ça va changer complètement la vie dans cet endroit. Il y aura 3000 magistrats, 10 000 personnes qui habitent, qui vont vivre à côté. Il y aura tous des gens qui vont se déplacer. Alors cette idée de transformer les abords de la ville, des lieux plutôt de résidentiels en lieux de vie, dans lesquels on mélange la vie du résident avec la ville, la vie de la justice dans ce cas. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, dans le sud, à Saclay, on construit le nouveau siège de l'école normale supérieure de Cachan, qui se déplace à Saclay. Eh bien, une autre grande structure universitaire dans laquelle vous avez des milliers d'étudiants et des professeurs, d'enseignants qui se déplacent. Alors, une des façons pour transformer les banlieues en ville, c'est justement de mettre des fonctions telles qui transforment un lieu monothématique, des déserts assez souvent affectifs, des déserts, dans un lieu dans lequel on construit le miracle typique de la ville, c'est-à-dire le mélange des choses. La vie 24 heures par 24, et ça s'est fait avec des équipements et publics. C'est pas seulement des équipements culturels, c'est aussi des bâtiments pour l'enseignement, des universités, des écoles, des hôpitaux, mais de construire, d'aller féconder les lieux extérieurs. C'est pas la seule chose qu'il faut faire.
C'est ce que vous faites en ce moment aux États-Unis, à New York, avec l'Université de Columbia, qui a hérité de terrains qui ne sont pas, considérés par la gentry new-yorkaise comme étant dignes d'être bâtis pour les futures élites de la nation, mais que vous contribuez justement à rendre beau.
Là aussi, il y a le même thème. Manhattan termine plus ou moins sur la 125e au nord. Mais Columbia University se trouve sur la 116. Alors, la décision de Lee Bollinger, qui est le président de Columbia, et de M. Bloomberg, qui était à l'époque le maire, et c'était de construire un nouveau campus un petit peu plus au nord, seulement 10 blocs au nord, 116 jusqu'à 125. Et là, on est en train de construire. Et là, c'est West Harlem. Or, pourquoi construire à West Harlem? Mais bien sûr, exactement pour la même raison, puisque finalement, il s'agit bien sûr de gentrify, enfin de transformer un lieu qui était un petit peu sauvage en quelque chose d'autre, mais c'est quand même l'enseignement, c'est des étudiants. Et les bâtiments qu'on construit là, on a déjà construit 2 bâtiments là, on en construit encore 2 pour nous-mêmes, puisqu'on a fait le master plan et après maintenant on construit. Mais les bâtiments ne touchent pas le sol. Enfin, bien sûr qu'ils touchent le sol, ils doivent tenir, mais au sol, il n'y a pas des activités purement études. C'est des activités qui se mélangent avec l'activité de la communauté. Et il n'y a pas de fermeture. C'est pas comme le campus du 116e rue de Columbia qui est fermé. C'est un campus qui est ouvert.
Alors parlons du Whitney qui est en train d'ouvrir. Ouais. Et qui manifestement crée une certaine polémique à New York, mais beaucoup d'éloges parmi les critiques internationaux d'architecture. Là aussi, vous avez choisi, en tout cas, de construire dans un bâtiment, entre guillemets, délaissé, qui est devenu, entre-temps, dans la cartographie de New York, un endroit huppé maintenant, puisque c'est la fameuse Green Line, c'est-à-dire la réhabilitation de certains quartiers de New York qui autrefois étaient réputés dangereux. Là aussi, vous avez joué la transparence, la beauté, la vue sur le Hudson.
Oui, c'était une longue histoire, puisque le Whitney a toujours été, depuis 40 ans...
C'est la même histoire, c'est-à-dire on sort du centre des villes, des bâtiments publics pour les mettre en périphérie.
C'est construit à Chelsea, sur le bord, qui était le meat market, c'était le marché à viande. Enfin, c'était un lieu pas tellement périphérique, mais sûrement un lieu industriel, entre guillemets, qui se transforme. Enfin, il y a des lieux de transformation, puisque les villes sont pleines de friches industrielles. Et finalement, de construire le Whitney, qui est le musée d'art américaine, là, c'était une bonne idée, puisque c'est comme ça, cette sorte de revenir aux sources, puisque Whitney était parti de là, de Chelsea, de la partie basse sud de Manhattan. Et bien sûr, c'est un bâtiment qui, et bien sûr, qui touche le sol, pour qu'il tienne, mais au sol, c'est la ville qui entre. On a appelé ça le largo. Largo, en italien, vous savez, il y a une dizaine de différentes façons d'appeler les places en italien. Et largo, c'est un petit peu la rue qui devient plus large et qui prend la place au-dessus du bâtiment. Ce qui fait que, quand on s'approche, on ne voit pas trop bien où le bâtiment commence. Enfin, le rez-de-chaussée, il est ouvert. Et vous voyez, il y a quand même une chose qu'il faut dire que, d'une façon ou d'autre, l'architecte, quand il a un petit peu de chance, et il se trouve au bon endroit, dans le bon moment, c'est pas lui qui change le monde, mais il participe à témoigner le changement du monde. Il y a ça, et le monde change. Et Beaubourg, ou le Centre Pompidou, je rappelle toujours Beaubourg, puisque c'était fait sur le plateau Beaubourg, il fallait bien que quelqu'un fasse ça, puisque le moment était venu. Le monde était en train de changer. 1068, mais pas seulement. Quelqu'un devait témoigner à travers une architecture, un changement, un moment de changement. Le changement qui était inévitable. Le musée qui devient des lieux pour les gens, ouverts, pas intimidants, et qui crée plutôt la curiosité. Eh bien, quand le mur de Berlin est tombé, 89, mais il fallait bien que quelques architectes soient là pour témoigner de ce changement-là. Eh bien, ça fait comme ça tout le temps. Quand on fait l'université de Columbia...
Je rappelle que vous avez construit des bâtiments à Potsdam Place à Berlin.
Tout à fait. Mais finalement, vous n'êtes pas là pour faire des esquisses sympathiques. Vous êtes là puisque, bien ou mal, l'architecture, c'est une art sociale. Alors, vous êtes là puisqu'il y a un événement de l'histoire qui a changé l'histoire. Et vous êtes là pour en témoigner. Alors, le bâtiment devient un petit peu le miroir de ce changement-là. Et alors, le Whitney, à sa façon, c'est aussi la même chose. Le Whitney, c'est aussi un autre bâtiment au milieu d'une ville, mais qui laisse tellement d'espace.
Qui s'efface, en quelque sorte.
Oui,
qui s'efface dans la trame de la ville.
Voilà, qui s'efface dans la trame de la ville. Alors, il y a toujours ça. Mais ça revient tout le temps. Et c'est le côté peut-être plus intéressant du métier de l'architecte. C'est pas d'ailleurs très différent du métier du journaliste, évidemment. Puisqu'un journaliste, il change pas le monde. Mais il témoigne des changements du monde. Alors, l'architecte, il traduit en bâtiment dur, résistant, un changement. Et ça, c'est souvent quand on a construit le California Academy of Science, c'est à San Francisco, c'est un musée de sciences naturelles. Il y a eu un tremblement de terre, l'Ona Petra, qui avait presque démoli le bâtiment qui existait déjà dans le Golden Gate Park. Eh bien, on l'a reconstruit. Mais évidemment, il fallait le faire. Et il fallait qu'il soit LEED, dans le système LEED qui mesure la sustainability d'un bâtiment, il est platinum. Platinum, il fallait le faire. Il fallait faire un bâtiment qui consomme très peu d'énergie. Eh bien, il y a toujours, presque toujours, à moins qu'on s'amuse à faire des bêtises, mais il y a presque toujours quelque chose à dire, quelque chose à raconter, quelque chose à célébrer. Quelque chose à témoigner. Et c'est ça qui fait que je trouve ce métier magnifique. Et jeune.
Alors, il paraît que vous n'aimez pas les conflits, Renzo Piano, et que vous passez beaucoup de temps, parce qu'on sait que le métier d'architecte, évidemment, est tissé de conflits. Dès qu'un projet arrive dans une ville, il y a des associations, il y a des contestations, etc. Et que vous passez beaucoup de temps en amont pour essayer d'apaiser les conflits et d'écouter chacun.
J'aime pas les conflits bêtes, mais j'aime pas mal les discussions. Vous savez, on fait un métier tellement dangereux, nous. Dangereux dans le sens que, au fond, si on écrit un livre mauvais, personne ne le lit. Et si on fait une musique horrible, personne ne l'écoute. Mais si on fait un mauvais bâtiment, tout le monde est obligé à le voir dans la ville. Je sais que c'est banal de le dire, mais il faut le rappeler.
Ben oui, mais vous êtes un architecte responsable du vieillissement de vos constructions. Parce que je rappelle quand même que vous avez rénové Beaubourg.
Oui, tout à fait. Mais il faut quand même ne pas se tromper. Alors, il ne faut pas être trop difficile avec les discussions, avec les conflits. Il faut écouter les gens. Écouter les gens, ça ne veut pas dire obéir les gens. Et vous savez, quelquefois, quand vous faites un projet public, que ce soit le char de Londres ou d'autres encore, vous avez des gens qui sont contre. Et les seules critiques qui soient utiles, c'est les critiques irritantes. Si ce n'est pas irritant, ça ne sert à rien. Alors, c'est un petit peu bête quand même de se fâcher. Il faut écouter les gens, il faut les écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut obéir. Et sur une dizaine de critiques, c'est fort possible qu'il y en a seulement 5 ou 6 qui soient raisonnablement écoutables et peut-être 2 qui soient bonnes. Et il ne faut pas refuser.
Voilà. Bah merci beaucoup, Renzo Piano. Mmh. Je rappelle qu'on n'a pas pu parler de tous les bâtiments que les Parisiens peuvent découvrir, comme cette merveilleuse fondation Pathé que vous venez de terminer il y a très peu de temps. Et que finalement, à travers Paris, mais aussi à travers la France, on peut regarder et admirer tout ce que vous avez construit et tout ce que vous, et j'espère que vous allez construire.
Tout à fait.
Est-ce que
je peux vous rajouter une chose très, très courte? Cette exposition était ouverte 3 jours avant la tragédie la plus grande qui nous a frappés à Paris et dans notre agence. Un jeune qui s'appelait Raphaël Hiltz a été tué. Raphaël, naturellement, était dans l'exposition le mardi 10, quand on a ouvert l'exposition. Et vendredi 13, il était mort. Eh bien, j'aimerais bien que tout le monde sache que cette exposition est dédiée à ce jeune homme, 28 ans. Et je le dis, puisque vous voyez, c'est un métier dans lequel les jeunes travaillent avec cette idée claire que le monde, il faut le changer. Et ce jeune était parmi ces jeunes qui voulait changer le monde. C'est terrible, non? Eh bien, je voulais seulement le dire.
Cette exposition qui vous est consacrée se tient à la Cité de l'architecture, qui est à Paris, derrière le Palais de Chaillot, dans l'ancienne Cinémathèque française. Merci beaucoup, Renzo Piano.
Merci.
Merci à Bruno Mourlan, Corinne Amar, Élodie Royer, Julien Rosa et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.